Voilà, nous continuons notre série sur la Genèse. Nous prenons Genèse. Genèse, on s'était arrêté au chapitre 18 et 19. On avait intitulé tout ça « L'homme charnel et l'homme spirituel ». On avait vu en Lot une démonstration, un exemple clair de ce qu'on peut appeler un chrétien charnel. Donc on avait vu ça dans l'autre, parce qu'on peut donner des théories, parce que dans la Bible il y a des théories, mais dans la Bible il y a aussi des exemples pour aider à comprendre la théorie. Et dans la Bible, dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au chapitre 3, on parle de l'homme charnel, de l'homme naturel, du chrétien spirituel et du chrétien charnel. Donc dans cette partie-là, dans cette zone, à peu près d'une manière théorique, et Lot nous a donné la démonstration de ce que pouvait être un chrétien charnel, parce qu'on a besoin d'exemples. Et on a vu, comme on l'a dit au début, que Lot, en partant avec Abraham, a montré qu'il voulait de Dieu, parce qu'Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Donc Abraham n'était pas parti comme ça, il n'avait pas quitté ses parents comme ça, sa famille. Abraham a quitté sa famille par obéissance à la voix de Dieu pour aller là où il ne savait pas. Donc c'était déjà que Lot le suive dans cet élan-là, c'est déjà très bien. Donc on est heureux pour lui. Donc c'est ce qu'on peut dire aussi sur le chrétien charnel. Déjà qu'il accepte Jésus, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup d'accepter Jésus comme sauveur, comme voie à suivre. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc on a vu par la suite que Lot faisait ses choix lui-même. Donc quand il a fallu se séparer d'Abraham, déjà il a accepté. Bien aimé, moi je remonte jusque là. Parce que pour moi, déjà Lot pouvait refuser la proposition d'Abraham de se séparer de lui. Mais lui, il l'a accepté déjà. Donc, c'était déjà la première grosse erreur. On se souvient d'un grand, Moïse, quand Dieu lui a dit, je te donne quand même, je vous donne quand même la terre promise, mais je me sépare de vous. Moïse a dit non. Si tu dois nous donner la terre promise, tu dois rester avec nous. Si tu te sépares de nous, moi, je refuse de partir à la terre promise. Donc Moïse avait compris que être avec Dieu était beaucoup plus important que recevoir un bon terrain où coule le lait et le miel. Mais arrivé autour de Lot, Abraham qui symbolise l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, le chemin que Dieu montre. Abraham qui symbolise ça dit à Lot, je pense qu'on devrait se séparer. Parce qu'il commence à y avoir quelques conflits entre tes chefs, tes responsables et mes responsables. Donc choisis là où tu vas partir, moi aussi je vais choisir. Normalement, si Lot était sérieux dans sa conception de Dieu, dans sa relation avec Dieu, il allait dire non. C'est Abraham que Dieu a appelé, je reste avec lui. On se souvient, Jésus avait dit à ses apôtres, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous restez avec moi alors que tout le monde m'a quitté? L'apôtre Pierre a dit, Seigneur, nous avons cru. C'est en toi qu'il y a les paroles de la vie éternelle. Donc même quand Jésus leur propose de partir, ils disent non. C'est. Nous avons vu que c'est toi que Dieu utilise pour nous. Ça ne veut pas dire que Pierre et les autres n'étaient pas troublés par le comportement, entre guillemets, de Jésus. Le comportement qui a fait fuir les autres, les phrases qui ont fait fuir les autres. Pierre et les autres étaient aussi troublés, et les autres apôtres étaient troublés par ça. Mais ils ont dit, on sait au fond de nous que c'est toi qui es la voix de Dieu pour nous. C'est pourquoi nous restons avec toi. Et de même, Moïse a dit à Dieu, je préfère rester avec toi loin de la terre promise, mais qu'avoir la terre promise, la terre où coule le lait et le miel, sans toi. Et là, Lot accepte, sans Abraham, de choisir un terrain. Et comme nous l'avions lu dans les passages précédents, il est écrit que Lot leva les yeux. Donc de lui-même, il regarde et il choisit ce qui est beau. Alors que quand ce fut le tour d'Abraham, c'est écrit que Dieu fit lever les yeux d'Abraham. Donc c'est Dieu qui a fait voir Abraham là où il devait aller. Donc on voit le comportement du chrétien charnel, c'est que c'est lui-même qui fait ses choix. C'est lui-même qui décide. Parfois, il se sert de la Bible pour dire « j'utilise tel verset ou tel autre verset ». Mais quand on le connaît bien, on connaît bien la personne, quand on reste longtemps avec la personne, on va comprendre que la Bible n'est qu'utilisée. En réalité, la personne fait ses propres choix. C'est ça le chrétien charnel. Et Lot en est la démonstration. Donc, premièrement, c'est un chrétien qui est prêt à vivre de ses propres moyens. Donc Lot était prêt à vivre, à se débrouiller tout seul sans Abraham. Or, quand il avait quitté leur patrie, lui, il avait suivi Abraham. Lui, il n'avait pas reçu d'appel. C'est Abraham qui avait reçu l'appel. Il avait suivi Abraham. Mais à un moment donné, il est prêt à vivre de lui-même. Et c'est la même chose. Le chrétien charnel, quand il se convertit, au début, c'est le Seigneur qui le suit. Au début, il dit, Dieu, sauve-moi, aide-moi. Mais dès qu'il connaît beaucoup la Bible, il sait prier, il sait jeûner, il connaît certaines choses, il commence à se conduire tout seul. Il va faire des universités de théologie, il va faire ceci, il va faire cela. Et Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est la personne qui croit qu'elle est maintenant forte, elle peut se débrouiller par elle-même. Elle n'a plus besoin de l'ordre de Dieu. Il y a des gens qui disent... J'ai rencontré une fois quelqu'un dans le bus. Il m'a dit qu'il priait avec sa sœur. Cela lui suffisait. Il n'a pas besoin d'autres chrétiens. Voilà. Donc le corps de Christ, ça ne lui dit rien. Avec son frère, sa sœur, c'est quelqu'un qui veut dire « Je peux me débrouiller par moi-même. Je sais ce que je dois faire. J'ai ma sœur. On sait ce qu'on doit faire. Le reste, l'ordre de Dieu, la structure de Dieu, ça ne nous intéresse pas. » Voilà. Donc, l'autre, c'est ça le chrétien charnel. Même s'il croit être fort, en réalité, il est loin de Dieu. Et l'autre a choisi un très bon terrain, un très beau terrain, fertile, beau, rempli d'eau et de verdure, mais loin de Dieu. Et on a vu les conséquences. Il y a une première fois, Abraham l'a délivré, alors il y a des rois qui l'avaient pris prisonnier et retenu prisonnier. Abraham l'a délivré. C'est ça le comportement des chrétiens, c'est ça la vie des chrétiens charnels. Après, ils vont avoir toujours des problèmes dans leur vie, problème ceci, problème cela. Et c'est toujours encore les chrétiens spirituels qui vont venir prier pour que Dieu change les choses, intercéder. C'est ainsi. Et deuxième épisode, finalement, ils se retrouvent à Sodome et Gomorre, où le péché atteint les sommets. Et malgré tout, comme on a dit, le chrétien charnel, c'est quand même quelqu'un qui a, cru en Dieu. Dieu dit que même si nous, on devient infidèle, lui, il reste fidèle. Donc Dieu va tout faire pour remplir sa part de contrat. Donc on voit que même si Lot a mené une vie charnelle en intégrant même les structures de direction, parce qu'il était à la porte de la ville, en intégrant les structures de direction de Sodome et Gomorre, donc il a intégré le monde. Or, la Bible nous demande de nous séparer du monde, mais lui, il a intégré. Mais, comme nous l'avions dit, son départ est dû au fait qu'il avait choisi la voie de Dieu, il avait choisi de suivre Abraham. Et Dieu n'oublie pas ça. Ce qui fait que, quand il a fallu détruire Sodome et Gomorre, Dieu a sauvé Lot. Et la dernière fois, nous avions tant insisté, et je tiens à le rappeler encore là, nous avions tant insisté sur la puissance de l'amour pour les choses de la terre. Nous avons vraiment insisté parce que on a dit que Lot était attristé. On a lu ça dans 2 Pierre 2:7. Lot souffrait de l'état de péché de Sodome et Gomorre, mais il ne voulait pas quand même lâcher Sodome et Gomorre. Il a été sauvé pratiquement de force. Et on avait dit que malgré le fait que la terre est une terre remplie de déception, de méchanceté, de péché de tout genre, qui offusque un chrétien normal, le chrétien charnel tient quand même à la terre. Il aime quand même la terre, malheureusement. Alors que ça devait le rendre pressé d'aller au ciel avec tout ce qui est choquant pour lui sur la terre. Mais il tient quand même à y rester. Et on a dit que c'était tellement fort qu'il a fallu sauver Lot pratiquement de force. Oui?
Je voudrais savoir. Ça marche pas. Allô? Quelle est la différence entre... Parce qu'une fois, quand tu avais prêché, tu avais dit que quand on se mettait sous un joug étranger, ou si on suit des gens qui ont une mauvaise vie et que le Seigneur frappe ces gens-là, du fait que nous, on se trouve avec eux, on peut aussi subir la colère de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que Lot, lui, n'a pas subi la colère de Dieu parce qu'il était justement dans...
Parce qu'il a quitté, il a accepté de quitter, finalement. Et sa femme, elle a subi la colère parce qu'elle a voulu se retourner.
Oui, mais il a accepté parce qu'il a été prévenu.
Ah oui, mais Dieu nous prévient, il prévient tout le monde.
D'accord.
Ah, il prévient tout le monde. Il prévient tout le monde. Donc on a expliqué que le monde a une grande puissance d'attachement. Un vrai chrétien ne peut pas passer tout son temps à parler des projets terrestres. Un vrai chrétien doit construire l'éternité. Parce que la terre est trop décevante, trop choquante. Un vrai chrétien doit passer son temps à réfléchir sur le comment se maintenir pour aller au ciel, comment sauver d'autres personnes pour aller au ciel, des projets qui aboutissent au ciel. Parce que la terre est très compliquée, trop complexe, dans la souffrance, dans le mal et dans toute forme de diverses déceptions, quoi. Même notre propre corps peut nous décevoir. Au moment où on ne s'y attendait pas, on tombe malade. Donc c'est ce qui explique qu'un vrai chrétien, lui, son objectif, c'est le ciel. Et là, nous voyons que Lot, on a vu ça la fois passée, il a fallu le sortir pratiquement de force de Sodome et Gomorre, alors que lui-même, il était choqué par ce qui s'y passait. Oui.
Excusez, la question ne va pas avoir nécessairement rapport avec la semaine dernière, là, mais j'étais absente. Tu sais, quand on dit que Dieu a appelé Abraham hors de son peuple, hors de sa famille, puis tout ça, il était quand même avec son père en voie vers Canaan avant que Dieu lui dise de quitter sa patrie. Son père est décédé en chemin à Charan, mais ils étaient en chemin vers Canaan.
J'attends le
verset. Et ça, c'est le verset juste avant de rentrer dans le Genèse 12. Et après ça, Dieu dit « quitte ta patrie ». Bien, il avait déjà quitté sa patrie. Il l'avait déjà quitté avec son père et Lot et sa femme, tout ça. Il avait déjà quitté et ils s'en allaient à Canaan. Donc,
non, mais il y avait aussi, la famille, il a quitté sa famille.
Ben, oui, d'une manière de parler. Et d'un autre côté, il était quand même avec son père, son neveu, sa femme, direction, c'est-à-dire qu'ils s'en allaient vers Canaan. Ils ne se sont jamais rendus. Et son père est décédé en chemin. Et pourquoi que je reviens à ça? J'étais pas là quand vous en avez discuté, mais je me dis... Abraham ne savait pas où est-ce qu'il s'en allait. Ben, il s'en allait déjà avec le projet de son père.
Ah non, Dieu, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, dans l'endroit que je te montrerai. Il lui a pas dit tel endroit.
Hein. Ok, ben comme ok.
Puis, et puis Abraham, rien ne dit que ils ont maintenu ce projet-là.
Mais ça. Ben, voilà. Son père, donc, il s'en allait, tu sais, comme ça, ça dit dans le verset précédent, il s'en allait vers la direction, vers Canaan. Bon, il meurt avant d'y arriver à Charan.
Et mais est-ce qu'on dit qu'il allait pour habiter à Canaan?
Ben, ça dit dans...
Ça dit dans
Genèse 11... C'est une question qui me surlupine, c'est pour ça. 11:31, ça dit, « Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Okay. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. » Et puis, dans ma tête, je me dis, bon, il s'en allait peut-être vers Canaan quand même. Et Dieu, c'est comme je me demande pourquoi que Dieu il dit quitte ta patrie quand il l'a déjà quitté.
Mais parce qu'ils n'étaient pas à Canaan, ils étaient à Charan.
Ils n'étaient pas encore rendus.
Ils étaient à Charan. On ne sait pas est-ce qu'ils ont voulu rester là-bas. On ne sait pas. Si Dieu dit à Abraham de sortir de ce... C'est parce que Dieu maintient sa vision peut-être d'aller à Canaan qu'il avait donné à Térakh. Térakh est mort. Mm. Maintenant, eux, ils habitaient déjà à Charan. Le Seigneur peut-être a voulu leur dire, maintenant, il faut sortir. Il faut aller jusqu'au bout.
Je dis ça parce que si jamais Dieu nous demande quelque chose, tu sais... Dans ma tête, je me dis, mais Dieu, il sait quel côté qu'on va prendre, même quand nous, on ne sait pas quel côté qu'on va prendre. Et puis, Dieu va bénir le côté qu'on prend. Tu comprends ce que je veux dire?
J'ai pas compris.
Dieu, il dit, quitte. Bon, quitte ta patrie, va, va. Si la personne va à gauche,
tu sais, ben non, là, il dit, dans le pays que je te montrerai.
Ah, dans le pays que je te montrerai.
Oui, oui. Verset 12.
Ah oui, de, que je 12, te montrerai. Oui. OK.
Ah, ouais.
Ben, il s'en allait déjà dans cette direction-là.
Non, ce qui est écrit là, c'est qu'ils habitaient à Charan. Donc, ouais. Peut-être que le Seigneur a voulu le remettre en marche.
OK.
Voilà.
OK.
Ils ont habité à Charan. Donc, okay. On voit beaucoup de gens. Le Seigneur suscite beaucoup de chrétiens qui étaient déjà dans les églises. À un moment donné, ces églises-là deviennent routinières. Après, quoique l'objectif d'une église, c'est toujours le ciel, entre guillemets, mais après, Dieu va susciter un serviteur dans une église pour lui dire, écoute, en quelque sorte, votre église tourne en rond. Maintenant, moi, je veux que tu mettes la vitesse supérieure pour aller dans mon objectif. C'est toujours le même objectif, mais voilà, il commençait à habiter Charan.
Parce qu'il connaît le cœur de l'homme, il sait que la personne a le soif de lui. Mais que cet endroit-là n'est pas, va pas l'emmener à destination plus près de Dieu ou quelque chose comme ça.
J'ai pas compris là. Il sait que
Dieu connaît le cœur de l'homme.
Ah, il connaît le cœur d'Abraham.
Et si cette personne demeure dans cet endroit, cette personne va tourner en rond comme l'Église a tourné en rond.
Ah, tu parles. Oui, on revient sur cette personne-là. Donc, effectivement.
Donc Dieu connaît le désir, le feu du cœur de cette personne, puis il va dire non. Je te montrerai où tu dois aller.
Voilà, tu sors, mais c'est toujours le même objectif qui est le ciel.
Ouais.
Mais là, il se fait que la personne n'allait plus au ciel, restait maintenant. Mm. C'est une église qui restait maintenant sur terre. Voilà, donc c'est ça.
D'accord.
Oui, oui.
Je pense que nous avons une certaine explication dans le livre des Actes par rapport à la question de la sœur Ginette, par rapport à l'appel d'Abraham. En fait, au livre des Actes, au chapitre 7, versets 1 à 4. Il nous expliquait que, en fait, Dieu a parlé à Abraham. Il était encore en Mésopotamie quand Dieu lui a dit qu'il faut qu'il quitte son pays, sa famille, et tout. Il était encore en Mésopotamie et que quand ils sont arrivés à Charan, Dieu lui avait déjà parlé. Ça, c'est dans le livre des Actes, chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Chapitre 7, verset 1 au verset 4. Chapitre 7, verset 1 au verset 4. Moi, j'ai la version anglaise, donc je ne peux pas lire avec vous.
D'accord, donc c'est pareil en français. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Au verset, on va lire de le premier. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse à Charan et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Ok. Donc, nous avons parlé long en loin en large. J'ai insisté là-dessus parce qu'on a souvent besoin d'exemples. Lot est un très bon exemple de l'homme charnel qui, malgré le fait qu'il soit choqué par le péché et par le mal, est quand même attaché au monde. Parce qu'il y a des gens qui se disent « Mais je ne vole pas, je n'injurie pas, je ne mens pas. » Mais ils sont attachés au monde. La Bible est contre ça. C'est écrit dans 1 Jean 2, 15 à 16. « Bien-aimés, n'aimez point le monde, ni tout ce qu'il y a dans le monde. » C'est écrit. Donc on peut ne pas voler, ne pas mentir, aller tout le temps prier, mais être attaché quand même au monde, et ça, ce n'est pas bon. Voilà. Oui.
Et j'allais demander aussi, hormis du côté charnel de Lot, est-ce qu'il n'est pas sauvé, comme il est écrit, il n'est pas sauvé suite à la fidélité d'Abraham envers Dieu, comme c'est écrit, « Crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et suite à ça, qui le Seigneur l'a épargné.
Oui, oui, l'action d'Abraham est capitale. Donc, c'est bien de souligner ça. L'intercession d'Abraham, on l'a vu. Abraham a intercédé pour que, s'il y a quand même des justes, que Dieu fasse grâce. Et depuis un certain temps, grâce à Abraham, Dieu sauvait toujours Lot. Il y a eu cette guerre avec les rois qui avaient enlevé Lot. Ensuite, il y a là encore Abraham qui intercède. C'est vrai que Dieu a quand même détruit Sodome et Gomorre, mais en sauvant d'abord Lot qui était le neveu d'Abraham. C'est vrai, notre intercession est importante. Par notre intercession, Dieu peut sauver beaucoup de personnes. C'est ce qui s'est passé aussi avec Moïse quand Dieu a voulu détruire les enfants d'Israël. Moïse a dit non, il a prié et Dieu a arrêté son plan, il les a gardés. Voilà. Donc l'intercession est importante. Et puis, nous prenons maintenant le chapitre d'aujourd'hui, chapitre 20, enfin, le premier chapitre pour aujourd'hui. Abraham partit de là pour la contrée du Midi et il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Entre guillemets, avant que je continue, Lot est parti, voilà, dans son côté charnel, il a fini encore par être enivré par ses filles et puis avoir mettre au monde avec ses filles. Donc, c'est ça qui a donné encore des tribus qui sont devenues ennemies d'Israël plus tard. Chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, ainsi t'ai-je empêché de pécher contre moi ? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent plus se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimélec dit, « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Voilà un épisode de la vie d'Abraham. Oui,
oui, par rapport au contexte, parce que souvent quand je lis ça, je ne comprends pas. Au verset 4, la Bible dit... Abimélec. Il dit « Enlevez la femme d'Abraham ». Et Dieu, quand il fait des reproches en songe, il lui dit « Je sais que tu as agi avec un cœur pur ». Et il répète le péché que lui... Il répète qu'il avait enlevé la femme de Sarah. Et enlever et agir avec un cœur pur, c'est ce que je ne comprends pas.
Ah, je crois qu'à l'époque, il y avait des coutumes comme ça. Tu prends d'abord la femme, tu l'épouses après. Oui, oui. Donc, ça se retrouve jusqu'aujourd'hui, hein, dans certains endroits. Donc, tu viens, tu... Oui, oui, même dans, va vers la Mongolie. Voilà. J'ai suivi déjà un documentaire à la télé. Aujourd'hui, actuellement, il y a des zones où ben, on arrive, on prend la femme, après on va contacter les parents. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je crois que c'est dans cette logique-là qu'on se trouve. Oui ?
En fait, de base, on part sur un mensonge d'Abraham, mais je ne comprends pas pourquoi il a des conséquences sur la maison d'Abimélec. Enfin, premièrement, il y a Dieu qui le menace en songe pour lui dire qu'il risque de mourir s'il prend Sarah. Et ensuite, Dieu avait frappé les femmes de stérilité.
Parce que Dieu connaît la vérité, c'était la femme d'Abraham. Donc Dieu a agi selon la vérité.
Ah, mais... il avait été induit en erreur par le mensonge d'Abraham.
Mais ça ne change pas que c'est la vérité que Sarah, c'était sa femme. Dieu, lui, agira toujours selon la vérité. Et c'est pourquoi nous ne devons pas commettre l'erreur d'attaquer quelqu'un parce que lui, il a fait une erreur. En nous disant, on a le droit, puisque lui, il a fait une erreur, on peut lui faire du mal. Ah, on se trompe parce que Dieu... Lui, il agit selon la vérité. Il ne va pas agir selon notre logique parce que l'homme est fautif, donc on peut l'attaquer tranquillement. On se trompe. Et je voudrais souligner, donc, ce que tu dis là nous interpelle nous tous parce que on se dit, mais tiens, Abraham a fait une erreur, Dieu l'a protégé quand même et Dieu frappe les autres. Alors, je voudrais nous interpeller, nous tous vous dire que c'est ça qui fait chuter beaucoup de chrétiens. Tu fais des erreurs, tu fais des bêtises, mais tu as toujours un bon boulot. Les choses marchent pour toi. Et tu te dis, Dieu est d'accord avec moi. Je suis spécial. C'est ça qui est la source de la chute de beaucoup de serviteurs de Dieu et de beaucoup de chrétiens. Pas forcément la chute, mais la stagnation. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'évoluent pas parce que ils ont la logique terrestre des bénédictions. Ils trouvent qu'ils ont une belle maison, ils ont ceci, un bon boulot, cela, et malgré le fait qu'ils négligent la volonté de Dieu. Et ils ne se tracassent pas, parce que du moment que leurs yeux voient de bonnes choses, c'est bon. Jusqu'au jour où ils vont entendre une maladie grave arriver dans la famille, ou bien un événement grave, ils disent, mais Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu vous avez déjà abandonné depuis un moment. Mais vous ne vous en rendiez pas compte parce que vous regardiez aux bénédictions matérielles. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Dieu, lui, il agit en fonction de la vérité. La vérité, c'était quoi? Celui qui va faire du mal à Abraham, Dieu va lui faire du mal. C'est ce qui, la promesse que Dieu fait à Abraham quand il appelle, il lui dit cette promesse-là. C'est pourquoi vous avez remarqué que les gens qui font du mal à Israël finissent mal. Parce que dès que Dieu appelle Abraham, il commence par ça. Il dit, ceux qui... te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Donc maintenant, qu'Abraham fasse ses bêtises, mais Dieu lui l'avait dit, celui qui touche Abraham, il sera maudit. Donc il ne faut pas commettre l'erreur en se disant, « Ah, mais puisqu'il fait des bêtises, on peut toujours gifler. » Ah, mais là, il y a une parole qui avait été dite depuis. « Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. » Donc ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu ou un chrétien a fait des erreurs qu'on peut se permettre de se lâcher sur lui, lapider, casser. Ah non, 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 non. Il faut qu'on dise, c'est son problème avec son Dieu. Il ne faut pas qu'on intervienne pour vouloir s'imposer, casser, mutiler la personne. Mais on se trompe parce que les promesses de Dieu demeurent et Dieu agira toujours en fonction de ses promesses. Qu'on ne se trompe pas là-dessus. Et en même temps, avertissement à tous, attention, ce n'est pas parce que malgré nos bêtises et nos fautes, nous semblons toujours bénis que Dieu est avec nous. Il accomplit sa parole. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous soutient dans l'erreur. Tôt ou tard, nous payerons quand même. Oui, oui. Comme c'est écrit dans Nombre 32, 23, ton péché te retrouvera.
Je voulais savoir, parce que à chaque fois on donne des choses à Abraham, ou on peut dire des richesses à Abraham pour derrière Sarah, il prend. Mais lorsqu'on lui a proposé, on lui a donné des choses derrière, parce qu'il était parti libérer Lot, il avait vaincu, il a refusé. Pourquoi il refuse là-bas et pourquoi derrière Sarah, quand on lui donne, il prend?
Ah bon, on va relire la partie où il avait refusé là.
C'est... Il dit même que tu veux qu'on puisse dire que je me suis enrichi à cause de toi.
Oui, mais après, il a donné la dîme à Melchisédek, non? C'était la dîme de quoi, alors? Donc, au chapitre 14. Chapitre 14. Le vainqueur, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedolamer, à verset 21, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. » Alors, c'est vrai, tu as raison. Donc, ils prendront leur part. Donc, la dîme, il avait faite avant qu'on lui donne les richesses. Voilà, c'est vrai. Donc, tu poses la question, pourquoi
il refuse.
Moi, je pense qu'il a suivi la pensée de Dieu dans son cœur. Il n'a pas voulu que ça donne l'impression que ce sont ces hommes-là qui l'enrichissent, alors que c'est Dieu qui l'enrichit lui-même, Abraham.
Oui, mais parce que les autres aussi, quand ils lui donnent beaucoup de choses avec des serviteurs, tout ça, c'est la richesse. Ils pouvaient aussi penser comme ça, voilà, on peut dire que je me suis enrichi avec ce que vous me donnez. Parce qu'au fait, au début...
Mais est-ce que c'est la même quantité de richesse?
Je ne sais pas, parce qu'au fait, quand je lisais, je ne comprenais pas le verset, là, je me disais, est-ce que quand il était sorti de chez lui, est-ce qu'il s'est enrichi derrière Sarah et tout? Mais j'avais lu, j'ai compris qu'il était sorti de chez lui, il était déjà riche.
Oui.
Bon, maintenant, quand je lis qu'il y avait des moments où il refusait, et il y avait des moments où il prenait, je n'ai pas compris, lui, il était déjà riche, mais il prenait tout ce qu'on lui donnait derrière Sarah. Et ça s'est produit deux fois.
Bon, Abraham, il est vu aussi comme serviteur de Dieu, comme Dieu a dit à Abimélec, c'est un prophète. Donc, il prend les choses qui sont données comme un sacrifice à Dieu. C'est les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu qui prennent ces choses-là quand on vient donner à Dieu. On donne à un humain. Voilà, donc je pense que la partie avec Abimélec, il y a un peu de cela aussi, où Abimélec, pour... C'est comme se faire pardonner par Dieu. Il fait ces sacrifices-là, il donne ses richesses à Abraham. Voilà. Donc, mais mis à part ça, ce que je peux dire en plus, c'est que le Saint-Esprit peut nous conduire à refuser un don de quelqu'un et à en accepter d'une autre personne. Donc, le Saint-Esprit connaît les intentions, il connaît les objectifs. Il peut te conduire à dire non quand une telle personne te donne et dire oui quand une telle personne donne. Alors, parce que le Saint-Esprit connaît tout. Donc c'est aussi une leçon pour qu'on apprenne à ne pas dire oui à tous les dons. Voilà, donc il faut qu'on se laisse conduire par Dieu. Voilà, donc nous revenons sur Abraham pria Dieu, donc verset 17, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. L'Éternel, verset chapitre 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Pardon, avant de passer au chapitre 21, nous tenons à souligner que tout ce qui est façon de faire charnel, Dieu n'est pas d'accord. Donc même si c'était Abraham, Dieu n'était pas d'accord qu'Abraham puisse utiliser le mensonge pour se protéger. Donc il faut savoir que nous nous restions dans la vérité, quoi qu'il en soit. Donc Abraham a voulu user de la chair pour se protéger. Dieu l'a confondu parce que Dieu a révélé la vérité à Abimélec. Et ça montre quand même la fidélité de Dieu, comme il le dit, même si nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Chapitre 21, donc, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants ? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Donc, nous voyons la fidélité de Dieu qui fait enfanter à 100 ans. Et je pense qu'une fois de plus, nous voyons le contre-pied de Dieu. Il nous prend toujours à contre-pied, comme il dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Donc, pour nous les humains, quand l'âge avance, on a l'impression que notre vie échoue. C'est ça la logique qu'il y a sur Terre. On se dit, ah, ma retraite, ah, j'ai déjà... Là, d'ailleurs, on était avec les stagiaires à la formation. Donc, on cherchait à quel âge on commence à appeler les gens vieux. Il y en a qui, déjà à 30 ans, se considéraient vieux. Voilà, donc, la règle, c'est quoi? Plus l'âge avance, plus l'homme se trouve impuissant et incapable. Mais là, Dieu prend les choses à contre-courant et dit non, c'est plus on est avec Dieu qu'on est puissant et capable. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Dieu a fait des choses exprès dans la Bible. Hein. Il a fait ça exprès pour que notre mentalité, nous en tant que chrétiens, change, qu'on ne réfléchisse pas comme les gens du monde. C'est écrit dans Romains 12, 1, 2. Que votre intelligence soit renouvelée, c'est important, bien-aimé. Un vrai chrétien doit avoir son intelligence renouvelée. Ça va l'empêcher de faire comme on voit, de certains pasteurs américains qui se font presque des maquillages, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester jeunes. Il y a un là qui prêche avec un t-shirt en montrant ses muscles. Il ne veut pas vieillir parce qu'il n'a pas compris que c'est Dieu qui est tout-puissant. Nous, bien-aimés, on ne cache pas notre âge, on ne cache pas notre vieillesse, parce qu'on sait que la vieillesse nous rapproche des objectifs de Dieu. Parce qu'Abraham, plus il devenait vieux, plus ça le rapprochait de la promesse de recevoir Isaac. Et Dieu n'a pas honte. Pourquoi nous, on va avoir honte? Dieu lui-même n'a pas honte. Dieu n'a pas honte de donner Isaac à 100 ans. Certainement, les gens se sont moqués. Certainement, les gens ont parlé. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Je sais que ce n'est pas facile d'être à côté d'une chrétienne qui a 30 quelques, 40 quelques, qui n'est pas mariée. Et on va apprendre une jeune fille semi-païenne, semi-chrétienne, de 22 ans qui se marie. Ah, on se dit, mais comment Dieu... Mais bien-aimé, nous, on ne peut pas marcher selon ce logique. Ce n'est pas le mariage qui est la vie éternelle. Ce n'est pas ça. C'est être avec Dieu. Dieu veut nous changer vraiment notre intelligence. Si tu dois te marier à 70 ans, gloire à Dieu. C'est là que toi, tu entres dans ta bénédiction. C'est là que toi, tu entres dans le plan de Dieu. Bien-aimé, est-ce que nos noms sont dans la Bible? Mais c'est le nom d'Abraham qui est dans la Bible, hein? Ah, beaucoup de nos noms seront donc enterrés là, c'est fini. On va retrouver ça seulement dans l'hôpital avec l'acte de décès. C'est là où on va mettre ton nom, l'acte de décès. Mais Abraham, son nom se trouve dans la Bible. Sarah, son nom se trouve dans la Bible. Mais voilà, ils ont accepté d'avoir l'enfant à 100 ans, 80. La femme 80, le monsieur à 100 ans. Parce que ce qui compte, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse pour nous. Nous ne devons plus regarder notre âge comme une faiblesse, comme une erreur, comme une faille. Non, nous devons avoir nos yeux fixés sur la volonté de Dieu. Un point, c'est tout. Si Dieu a préparé de faire un grand coup avec toi à 68 ans, vaut mieux ça que tu fasses des petits coups à 25 ans, 20 ans, 30 ans, bon, qui ne mènent pas à grand-chose. Vaut mieux ça, bien-aimé. Changeons de mentalité, changeons de logique. Nous explorons la Bible pour comprendre la pensée du Seigneur. Il va donner l'enfant à 100 ans. Dans quel but? L'apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens que tout ce qui s'est passé avant, ça a été écrit pour nous, les gens de la fin des temps, pour qu'on soit encore plus fort qu'eux et qu'on fasse encore de plus grands exploits. Mais malheureusement, on retombe toujours dans l'intelligence humaine. Ça a été écrit pour nous. Nous, on a des témoignages. Ce n'est pas des théories, des témoignages. Abraham a vécu ça. L'enfant de la promesse à 100 ans. Voilà. Deuxièmement, ça montre que Dieu ne se contentera pas de nos logiques charnelles, de nos constructions charnelles. Il n'en voudra pas. Abraham a eu un enfant avant Isaac. Hein? Mais Dieu a dit non, c'est mon enfant que moi j'ai promis, c'est lui que j'utiliserai. C'est celui que moi j'ai promis. Dieu peut nous promettre des choses, mais nous, à cause de l'impatience, nous précipitons, sachant que ces choses-là passeront. Ça ne comptera pas devant Dieu. On devra refaire. Nous, ça nous a eu fait beaucoup de fois où tu t'inventes ton propre jeûne. Parce qu'on a tellement entendu des enseignements sur le jeûne et la prière. À un moment, voilà, la chair te pousse à jeûner pour te sentir bon chrétien. Mais dès que tu finis ton jeûne, tu entends maintenant la vraie voix du Saint-Esprit te dire, maintenant il faut jeûner. Ah, tu te dis, mais je veux jeûner donc 20 jours pour rien. Maintenant, il faut que je recommence. Ah ben voilà, parce que ce qui n'est pas de Dieu, ça ne compte pas pour Dieu. C'est ta chair qui a voulu jeûner pour te sentir fort. Eh bien, tu vas te sentir faible maintenant. Donc, c'est important. Abraham, quand même il reçoit la promesse, vous savez, dans la promesse, il la reçoit dans Genèse 18, la promesse ferme où Sarah rit. Mais il avait déjà un enfant. Hein? Il avait déjà l'enfant. Donc Dieu, malgré l'enfant qui était déjà là, Ismaël, pour Dieu, ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, ça passait par Sarah. Un point, c'est tout. Et ils ont entendu. À 100 ans, ils ont eu l'enfant. Bien-aimés, ne regardons pas le temps comme un frein dans l'action de Dieu. Satan est là pour nous pousser, dire, mais le temps passe, le temps passe, le temps passe, ça fait... Oui, si on est dans la négligence, d'accord, qu'on se réveille parce que la Bible dit racheter le temps. Mais si on est dans la vérité, on prie sérieusement, on fait l'œuvre de Dieu sérieusement et que notre cœur est sérieux devant Dieu, que le temps ne soit pas un problème pour nous. Dieu prépare son coup. Il prépare son exploit. Et là, Isaac vient et la volonté de Dieu va continuer à travers Isaac. Et nous passons au chapitre 22, à partir du verset 15. Chapitre 22, à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela. Donc, l'épisode, c'est quoi? C'est que... Bon, je préfère, on va tout lire alors. À partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. À Dieu, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien-aimé, c'est un terme quand même qui fait mal. Hein. Dieu l'appelle ton unique. Donc, voyez à quel point il y a l'enfance, les enfants selon la chair, il y a l'enfant selon Dieu. C'est ce qui compte pour Dieu. Ton unique. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant. » Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà la belle histoire du sacrifice d'Isaac et la difficile histoire, oui, du sacrifice d'Isaac, qui nous apprend que Dieu peut nous demander, ou bien lui-même peut le faire, tuer son propre projet. Oui.
Oui, par rapport au verset 8, la parole d'Abraham, il dit « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Est-ce qu'Abraham savait où c'est Dieu qui parlait à l'enfant?
Je pense que c'est Dieu qui parlait à l'enfant. Parce que dans Hébreux 11, il est dit que Abraham s'attendait à la résurrection. Donc, tout ça, on ne sait pas à quel moment, est-ce que c'est avant cette phrase ou bien après cette phrase. Mais Abraham, sa foi, c'était que Dieu a une solution dans cette affaire-là. Oui, oui.
En fait, dans le verset 5, il me semble, quand Abraham il parle à ses serviteurs, il leur dit « Nous reviendrons ». Donc en fait, il avait la conviction qu'il allait revenir avec son fils. Enfin, parce que... Dans la manière dont il le
dit. C'est fort possible, mais on ne peut pas garantir ça. Il peut dire ça aussi pour ne pas inquiéter. Voilà, donc c'est fort possible. Mais Hébreux 11 nous assure qu'Abraham s'attendait à la résurrection. Je crois que sa logique était simple. c'est le fils promis par Dieu. Il me demande de tuer. Certainement, il a prévu de le ressusciter. Parce que c'est lui. Et en plus, il appelle ton unique. Et en plus, il a insisté pour qu'il ait ce fils-là. Parce qu'Abraham, comme nous l'avons dit, il avait déjà un fils avant. Mais Dieu a insisté pour qu'il ait le fils par Sarah. Donc, Abraham devait voir, devait se dire, mais certainement, il y a un objectif dans cette affaire. Je vais obéir et je m'attends au Seigneur. Et ça doit nous fortifier cet épisode à plusieurs égards. Un, le témoignage d'obéissance d'Abraham, comprendre qu'avec Dieu, vaut mieux seulement obéir, même si on ne comprend pas tout. Et on va voir la richesse de sa puissance. Deuxièmement, on doit être prêt à ce que le projet de Dieu meure. On ne doit pas trop insister parce qu'on est convaincu que c'est de Dieu. Parfois, le Seigneur va nous pousser à insister. Parfois, il va nous amener à juste laisser le projet mourir. Donc, et on doit être prêt à toutes les deux possibilités. Souvent, dès qu'on voit le projet de Dieu qui est en train de se mourir, on a la réaction humaine de survie, de vouloir faire survivre ce projet par nos propres forces. Et ça ne marche pas. On condamne encore les choses. Nous devons être prêts à dire, bon, c'est le Seigneur qui m'avait envoyé dans tel endroit. Il n'agit plus. Bon, moi, j'accepte que ça meure, mais moi, je reste fidèle à Dieu. J'obéis à sa voix, mais je ne cherche pas à sauver à tout prix la chose. Voilà, que sa volonté soit faite. Il sait ce qu'il veut. Oui.
Oui, pasteur, comment discerner si c'est nous qui nous sommes trompés ou si c'est Dieu qui permet que ça meure, en fait? Comment on peut comprendre?
Puisqu'on a fait ce qu'il fallait en tant que serviteur de Dieu, mais les choses continuent à ne pas bouger et qu'on a la paix dans notre cœur. On se dit, bon, c'est vrai que ma chair veut faire les choses, mais je ne vois pas Dieu réagir, je laisse Dieu dans son inaction. Parce que quand Dieu veut qu'on continue, qu'on fasse quelque chose, il nous réveille, il nous parle, il nous... Voilà, lorsqu'il n'y a plus ça, on se dit, bon, moi Dieu, je reste disposé pour ça. Moi Dieu, je reste ferme sur le fait que tu m'as dit ça, et je crois que tu vas l'accomplir. Donc Abraham considérait que ça allait quand même s'accomplir, mais ça ne l'empêchait pas de tuer le projet momentanément. Voilà, parce qu'il s'est dit, Dieu l'accomplira d'une autre manière. Au fait, ce n'est pas une logique de dire, j'abandonne. Ah non, c'est juste que, peut-être de cette manière, Dieu ne veut pas encore faire ainsi, ou bien il y a une pause que Dieu veut faire, mais je sais que Dieu agira. Nous avons le très bon exemple avec Joseph. Joseph avait les moyens humains, entre guillemets, parce qu'il détenait quand même le trésor du pays. Joseph pouvait s'arranger pour retourner à Canaan d'une manière humaine. Il avait beaucoup d'argent, il était riche. Le peuple d'Israël, à travers lui, était devenu puissant. Il pouvait faire un coup, quitter l'Égypte d'une certaine manière, s'organiser même avec les peuples voisins pour rentrer, vivre la promesse de Canaan, aller en Canaan. Mais Joseph a passé son temps en Égypte tout en étant attaché à la promesse de Dieu. C'est pourquoi en mourant, il dit, Dieu vous sortira d'ici. Donc il était toujours convaincu que leur place était à Canaan, mais à son époque, il a accepté que le projet soit comme mort, tout en sachant que le projet s'accomplira quand même. Donc c'est cela qu'on doit se dire. Actuellement, je vois flou. Je considère le projet comme mort, mais ça s'accomplira. Donc je garde ma foi, je garde mon feu, mais je ne cherche pas par mes propres forces à maintenir le projet de Dieu éveillé. Voilà. Donc c'est cela que... Oui.
Mais donc, pasteur, ça veut dire qu'un projet ne meurt pas complètement?
Comme donc, dis, ça ne peut pas mourir, le projet de Dieu. Ça ne peut pas mourir.
Mais comme tu as dit,
si c'est de Dieu, ça ne peut pas mourir.
Ah, mais comme tu avais dit qu'on doit, on doit accepter que le projet de Dieu meure.
Oui, oui, donc c'est l'ultime acceptation. Donc c'est-à-dire qu'on doit être prêt jusqu'à ça. dit, bon, ça meurt, mais en réalité, on sait que ça ne peut pas mourir. Mais on ne fait rien pour empêcher la mort apparente. Parce que là, Abraham pouvait dire, mais non, ce n'est pas possible, c'est faux. Ça, c'est le fils de la promesse, j'empêche sa mort. On se déplace, on va ailleurs. Comme notre bien-aimé Jonas s'est dit, ah, je prends le navire de Tarsis, je vais fuir, je ne veux pas du projet de Dieu. Mais le projet de Dieu s'est accompli quand même. Donc là, Abraham pouvait empêcher la mort de son fils. Mais il dit non, même si c'est le projet de Dieu, c'est Dieu qui décide que ça meure, bon, je laisse mourir. Mais je sais que Dieu est fidèle. Certainement, il a un autre plan à travers ce qu'il me demande de faire. Voilà ce que doit être notre raisonnement. On doit se dire, le projet ne meurt pas. Mais apparemment, Dieu veut que je fasse comme Isaac, ben, que je le vois mourir comme ça. Mais il sait ce qu'il a à faire. Je continue à croire, je continue à espérer. Et pour l'instant, j'obéis juste à Dieu. Je ne fais rien. Il me demande de ne rien faire. Je ne fais rien. Voilà, c'est ce qu'Abraham avait fait. Il a obéi à la volonté de Dieu du moment. En ce moment-là, c'était il fallait qu'Isaac meure. Alors que avant, c'était il fallait qu'Isaac vive. Donc à un certain moment, il a obéi à la volonté de Dieu du moment. Connaissant la volonté de Dieu globale, il a quand même obéi à la volonté du moment qui semblait condamner la volonté globale de Dieu. Donc c'est ce qu'on doit, on doit être prêt à accepter. Des gens comme Étienne, ils pouvaient dire, bon, je ne meurs pas, hein. Moi, j'ai la puissance, j'ai la parole, je convertis des âmes. Si je meurs aujourd'hui, ça va diminuer l'élan de l'Église. Mais non, il a préféré mourir et sachant que Dieu continuera son œuvre. Et on a vu quelle renaissance d'Étienne avec la venue de l'apôtre Paul. Voilà, donc ça nous donne des exemples qui nous montrent que le projet de Dieu ne peut pas mourir, mais on doit être prêt à le voir comme mourir par obéissance à Dieu et laisser Dieu lui-même le réveiller quand il voudra. Voilà. Et nous allons au chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Éphron était assis parmi les fils de Heth et Éphron, le Héthien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth 400 sicles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ des fronts à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes les limites d'alentour, toutes ces limites alentour, devinrent aussi ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Voilà, on cite cette histoire pour montrer quelques points, peut-être deux points. Le premier point, c'est l'importance de l'enterrement, hein, que le corps puisse avoir un tombeau, c'est est montré et vu dans ce texte où Abraham s'efforce à trouver un tombeau pour Sarah. Donc il s'efforce, il lutte pour cela. Et la deuxième chose que nous voulions soulever ici, c'est la sagesse d'Abraham. Abraham a, même si on lui proposait de lui donner la grotte gratuitement, Abraham décide quand même de payer le terrain. Et le Seigneur doit nous donner la... Nous devons prier comme l'apôtre Jacques dit, afin que Dieu nous donne la sagesse dans la gestion des relations avec les autres. Donc on voit que les gens ont insisté pour qu'Abraham prenne ça gratuitement, mais Abraham a fini par payer parce que la sagesse lui commandait de payer 400 sicles d'argent pour cette grotte-là qui allait servir plus tard à enterrer beaucoup de membres de sa famille. Et il a saisi une phrase que l'homme a citée. Vous savez, il est écrit dans Matthieu 15, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Il faut apprendre à saisir la vraie pensée d'un humain grâce à ce verset que Dieu, Jésus nous donne. Hein. Donc, ce verset nous dit ceci. Qu'un humain le veuille ou pas, il dira ce qu'il pense. Mais à toi de savoir ça. Quand Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, même le plus grand menteur finira par dire sa vraie pensée. À nous d'être attentifs, de comprendre. Là, il vient de dire sa vraie pensée. Tout ce qu'il a dit avant, ce n'était pas sa vraie pensée. C'était remplir le terrain, dire des choses, faire ce qu'on dit en français, des manœuvres dilatoires. Tu dis ceci, tu dis cela pour essayer de distraire, d'amener les gens ailleurs. Mais même le plus grand menteur, parce que c'est une règle spirituelle, Jésus le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui est dans le cœur finit par sortir. Mais ça, qui peut comprendre ça? C'est les oreilles sages et attentives. Donc, quand le monsieur dit un terrain de 400 cycles d'argent, est-ce que ça peut faire un problème entre nous? Abraham a compris, fixer le prix du terrain. En réalité, le monsieur fixait le prix du terrain. Mais Abraham pouvait faire la mauvaise foi, dire « Ah, comme ils veulent me donner gratuitement, je prends quand même. » Mais il risquait de, tu prends quand même, mais il risquait d'avoir peut-être des problèmes plus tard. On te dit « Mais tu as pris le terrain de quelqu'un d'autre. » Alors que là, c'est acheté, c'est signé. Il faut comprendre, bien aimé, dans l'entretien qu'on peut... Nous, c'est ce qu'on vit en tant que pasteur. Tu as un entretien avec quelqu'un, la personne va dire, parler 50 minutes, mais il y aura deux minutes où la personne va être comme distraite par le Saint-Esprit et va dire sa vraie pensée. Tu sais, ah, voilà ce qu'il a voulu me dire. Et il n'y a pas que nous, mais c'est pour nous tous. C'est un conseil que je nous donne à nous tous. Quand vous discutez avec quelqu'un, la personne finit par dire le fond de sa pensée. C'est la Matthieu 15, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ça dépend de notre sagesse. Voilà. Ça dépend de notre relation avec Dieu pour nous montrer cela, pour nous dire voilà sa vraie pensée. L'esprit va te montrer voilà sa vraie pensée. Et en même temps, tu comprends finalement tout. Parce que vous savez, il y a des choses où tu dis, mais je ne comprends pas. Vous parlez. Je ne comprends pas. À un moment, la personne va dire une phrase. Elle va dire, ah, maintenant je comprends tout. Donc la personne, par cette phrase-là, vient de dire ce qu'elle essayait de cacher d'une certaine manière. Et qui restait donc un blocage pour nous, pour vous, une sorte d'inconnu mathématique. Il y a le X là, mais c'est quoi? Mais à un moment donné, la personne va dire cette phrase-là. Ah, soit c'est amical, on va dire, mais il fallait me dire cette phrase-là, parce que c'est ça qui me manquait pour que je comprenne ton problème. Si ce n'est pas amical, il y a un vrai problème, une lutte là, tu n'es pas obligé de le dire, mais tu as compris qu'est-ce que la personne veut. En fait, la personne veut son héritage. Qu'est-ce que la personne veut? La personne veut son argent. Qu'est-ce que la personne veut? En fait, la personne veut rappeler une telle faute qui avait été commise autrefois. La personne n'a jamais avalé ça. Donc on se rend compte, puisque quand la personne parle, tu te dis, mais il n'y a rien qui s'est passé là. Pourquoi la personne fait ceci? Pourquoi la personne fait cela? Tu ne comprends toujours pas. Ah, il va y avoir une phrase. Ah, d'accord. Donc, ce qui s'était passé il y a 8 ans, la personne n'avait pas pardonné. Et elle profite d'un petit incident pour maintenant se lâcher. Donc, et tu comprends tout finalement. Il y a des gens, tu vas comprendre. Ah, son problème, c'est qu'il va entrer dans la chorale. Parce que tu ne comprenais pas avant. Mais dans la discussion, son problème, c'est qu'il veut chanter. Il veut utiliser le micro. Parce que chanter, on peut chanter dans la douche, on peut chanter dans les rues. Mais là, lui, son problème, c'est qu'il veut utiliser le micro. Donc, tu finis. Mais, bien aimé, ayons confiance en Dieu. Matthieu 15, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la personne finira par dire. C'est pourquoi les humains le savent à peu près. C'est pourquoi ils développent des sérums. On appelle ça des sérums de vérité. C'est des produits chimiques qui ont pour travail d'enlever la force de volonté qui permet à l'homme de mentir. Parce que pour mentir, il faut une volonté, une force de volonté qui te permet de construire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils t'enlèvent par ces produits chimiques cette force-là de volonté qui aide l'homme à construire des mensonges ou à créer des apparences pour cacher la réalité. On t'enlève ça et naturellement la vérité sort. C'est ce qu'ils appellent des sérums de vérité. Donc ça enlève tes résistances, ça enlève ta force de volonté. Et naturellement, ce qui est vraiment va sortir. Tu vas le dire dans cette ivresse-là de ce stupéfiant, de cette drogue, tu finis par dire, sans torture, toi-même tu dis parce que on t'a brisé les résistances par des produits chimiques. Mais même cette méthode a des limites parce que l'homme est un constituant spirituel fort. Donc l'homme même dans cet état-là, il y a certains qui continuent à garder leurs secrets. Et donc nous, là où on doit se réfugier, c'est dans la parole de Dieu, croire que face à nous, Matthieu 15 va s'accomplir toujours. Les personnes finiront par dire le vrai fond de leur pensée. Parce que c'est ainsi que Dieu a fait les choses. L'abondance du cœur, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc à nous d'être attentifs. Et je voulais marquer cette sagesse d'Abraham. Qui a compris? Ah, il me fixe le prix. Il me donne l'argent. Il me fixe le prix. Donc nous aussi comprenons. Beaucoup de choses se passent comme ça, par des phrases indirectes. Et là, tu comprends, voilà ce que la personne veut réellement. Et bien sûr, le Seigneur, si c'est de Dieu, le Seigneur confirme, hein, mais si ce n'est pas de lui, il peut aussi infirmer. Mais dans tous les cas, soyons sages dans nos relations avec les autres pour comprendre, ben, s'il a fait ceci, c'est que, voilà, il y a un problème encore de blessure dans son cœur, mais la personne n'a pas dit clairement son problème, mais toi, tu as interprété ses actes, tu as interprété ce que sortait par l'abondance du cœur. Mais la personne n'a pas dit ça clairement, mais toi, tu as saisi. C'est comme là, la personne n'a pas dit clairement le prix, mais Abraham a saisi que la personne était en train de donner son prix. Ben, je vais lui payer ce prix-là. Et on voit la suite quand c'est un discernement qui vient du Seigneur. Le monsieur a accepté les sous. Il n'a pas refusé. Il a bien accepté les sous. Donc, le Seigneur nous conduit, quoi. C'est une réalité. Abraham est un exemple. Voilà. Nous lisons au chapitre 24. 24. Voilà, donc on est en train, au verset premier, c'est écrit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Ah, ça c'est fort, hein? L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, « Bois. » Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Voilà un épisode important qu'en tant qu'explorateur, on découvre, parce que certains, bon, se contentent des points importants de Genèse, mais là, ça nous permet de voir des choses parfois qu'on nous négligeons. Là, Abraham insiste sur le fait que son fils ne doit pas retourner dans la maison de son père. C'est vraiment, on sent d'Abraham un vrai appel, un vrai attachement à Dieu. Donc il dit, mon fils, Dieu m'a sorti pour Canaan, c'est là que mon fils sera, c'est là que les promesses de Dieu s'accompliront. Donc même s'il doit se marier, mon fils ne bouge pas. C'est mon serviteur qui doit aller chercher la femme pour lui. Ça nous montre comment, voilà, ça doit être vraiment le désir de Dieu pour le mariage, que ce soit Dieu lui-même qui nous donne la personne. Donc Isaac est là, il attend que Dieu lui donne la personne. Abraham est là, il attend qu'on choisisse. Et ça va très loin parce que c'est une grosse charge qu'on donne à ce serviteur-là. Il se dit, oh, choisir la femme de mon maître, les deux fils de mon maître, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, le moyen le plus simple que négligent beaucoup de personnes, il fait appel à Dieu. C'est tellement simple qu'on ne le fait pas. Dans beaucoup d'affaires que nous traversons, que nous traitons, c'est tellement simple de faire appel à Dieu qu'on trouve cela inutile. C'est tellement simple de faire appel à Dieu qu'on oublie. Et on commence à s'inquiéter, à faire des projets, à faire ceci. C'est tellement simple de dire, oh, je vais jouer à celui qui est faible, je demande à Dieu. C'est tout, qu'il m'aide, parce que lui, il connaît comment ça peut se faire, quelle femme il faut pour moi, pour mon fils, quel mari il faut pour moi, pour ma fille, ainsi de suite. Dieu connaît, c'est simple de dire, Seigneur, fais les choses. Malheureusement, ce n'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a même d'agences matrimoniales chrétiennes où les gens commencent à chercher avec photo à l'appui. J'aime le cheval, j'aime la natation, je suis un quinquagénaire averti, j'aime les jeux d'échecs, bien-aimé. C'est ça la présentation qu'on va faire sur une agence et puis l'autre aussi répond, voilà, j'ai des cheveux courts, mais non, bien. Non, c'est Dieu lui-même qui prépare les choses. Nous, on doit prier, Dieu, donne-moi la personne que tu as choisie pour moi. Mais peut-être aussi parce qu'on fait pas cette, les gens ne font pas cette prière-là parce qu'ils n'ont pas confiance que Dieu va leur donner une bonne personne. Ou bien ils ont peur aussi que Dieu les fasse attendre. Donc, ils ne font pas cette prière-là. Et le serviteur d'Abraham, lui, il était faible, confronté à une grosse difficulté. Bien aimé, c'est une grande responsabilité. Ce n'est même pas ta propre femme. C'est la femme d'autrui. Si tu fais le mauvais choix. Mais quand on est face à des grandes responsabilités comme ça, disons Seigneur. Disons Seigneur. Et en tant que serviteur de Dieu bien-aimé, nous serons confrontés parfois à des choix de ce genre-là. Hein, où la réponse qu'on donne à quelqu'un, c'est une réponse qui peut nuire à sa vie ou bien le bénir abondamment. Et on peut être tenté d'être diplomate, malheureusement. Nous, on a donné beaucoup de réponses aux gens. Quand on revient, on explique ça à d'autres frères ou à notre femme. Mais si tel problème lui arrive maintenant, moi, j'ai parlé au nom du Seigneur. Si ça lui arrive, c'est moi, je vais faire quoi? Oh, mais s'il meurt maintenant? Moi, j'ai parlé au nom du Seigneur. Maintenant, s'il meurt, ça fait partie des risques du métier de pasteur. Voilà. Donc, tu es obligé de donner parfois des réponses où la vie des gens est en jeu, où de grosses sommes d'argent sont en jeu. Mais maintenant, toi, tu donnes la réponse à quelqu'un. Si ça tourne mal, tu t'imagines les conséquences. Mais quand tu sais que tu as parlé au nom de Dieu, ben, tu ne fais pas de diplomatie. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il n'y a pas de diplomatie. Et le monsieur a dit clairement, Seigneur, montre-moi. Mais vous savez, il a donné du boulot à Dieu. Et c'est aussi un témoignage que je veux nous donner, bien-aimés. Dieu savait qu'on allait parler de ça, mais moi, je ne savais pas exactement. Il y a 3 jours, je suis tombé sur un article sur le dromadaire. Ce qu'on appelle chameau ici, en réalité, c'est un dromadaire. Le dromadaire a combien de bosses? Le dromadaire a une bosse et le chameau a 2 bosses. Mais le chameau, quand il boit, vous savez, il boit combien de litres? Il peut boire 130 litres. Est-ce que vous comprenez? 130 litres, c'est les bouteilles qu'on a là de 1,5 litres. Donc, 130 litres... c'est environ 80 bouteilles comme ça. environ 80 bouteilles. Donc le dromadaire peut boire tout ça. Maintenant, il y en a, lui, il amène beaucoup. Quelle est cette femme-là qui va te, tu demandes à boire? Lui, il va te proposer non seulement de te donner à boire et donner à tes dromadaires, sachant qu'un dromadaire peut boire 130 litres. Qui peut accepter? Quelle femme? Donc ce n'est même pas un groupe de femmes ou bien une famille. C'est une femme, mais la femme à qui je vais demander de l'eau. Si elle ne se contente pas de me donner de l'eau, mais elle propose pour des chameaux, là, je comprendais que c'est elle. Alors là, c'était un choix costaud, mais en même temps, un indice fort qui montrait que si une femme fait ça, Dieu m'a répondu. C'était fort ce qu'il a demandé. Hein. C'était fort. Donc on doit être prêt à demander ce qui est fort. Donc j'ai lu justement... Je comptais même photocopier l'article sur le dromadaire et mettre ça derrière, qu'on lise ce que... Donc, au fait, l'article, le but de cet article, c'est de montrer combien Dieu est puissant. Comment cet animal est. Les capacités de cet animal-là. Déjà, les coussins qu'il y a sur ses genoux, ce sont des coussins qui apparaissent tout seul un jour. Vous savez, nous, on a des coussins parce qu'il y a beaucoup... Quand ils étaient enfants, ils s'agenouillaient beaucoup, on les punissait, il y avait des choses comme ça. Nous, quand on était à l'école, c'est pas comme en France, c'est le confort, l'école ici. Nous, à l'école, quand on dit au coin là-bas, c'est à genoux. Hein. À genoux, tu es là, le professeur, il te regarde pendant une heure. Donc, quand on avait l'âge de 14 ans, 13 ans, on avait des genoux noirs, bien, avec des coussins. Parce qu'on s'était longtemps mis à genoux. Mais c'est des genoux que nous-mêmes, ça s'est formé avec le temps, à force d'être à genoux. Mais le coussin du chameau, c'est avant qu'il se mette à genoux, ça sort déjà. Donc ça prépare le fait que plus tard, parce qu'il va avoir beaucoup de poids, en se mettant à genoux, il peut supporter le poids qui sont dessus. Alors il faut que je mette cet article-là. J'ai lu ça il y a 3 jours, j'étais au travail, je lisais ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ils expliquent comment les globules blancs du chameau s'allonge, mais ce qui fait que quand le chameau boit l'eau, parce que nous, quand nous buvons l'eau, pour que ça passe dans le sang, ça prend un certain temps. Mais le chameau, quand il boit l'eau, l'eau va rapidement dans le sang, ce que vous le voyez, qu'il était maigre, il grossit en buvant l'eau, parce que ça va rapidement. Mais on a expliqué tout sur le chameau. J'ai dit, mais c'est... Et le monsieur qui explique ça, il a dit, Dieu l'a préparé à être... un vaisseau du désert. Et le chameau peut faire plusieurs jours comme ça, sans boire de l'eau. Et la bosse que nous voyons, c'est pas de l'eau, c'est une graisse qui lui permet de vivre beaucoup de jours sans manger. Ça c'est dilué, ça vient dans son corps, il mange pas, il continue. Ce qui fait que le jour où il va trouver l'eau, 130 litres d'un coup, il boit. 130 litres. Donc la dame qui allait de proposer ça, c'était une vraie servante de Dieu. C'était une vraie femme gentille, bonne, qui allait proposer de donner l'eau au chameau. Donc il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, en plus une jeune fille, vous savez comment, à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Lui demande juste de l'eau pour lui. Et qui répondra? Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Tout ça, bien aimé, c'est différent de tout ce qu'on entend ici. Il y a des gens qui cherchent des filles avec des cheveux noirs, je ne sais pas quelle taille. Non, c'est celui qui donnera l'eau aux chameaux. Tu viens me parler de je ne sais quoi. Et il y a des sœurs, au lieu de chercher, des hommes qui connaissent la parole, bon, un CDI, machin, truc, BMW, mais non, mais... C'est pourquoi il y a des problèmes au milieu des chrétiens. C'est pourquoi il y a des problèmes. Là, le monsieur a dit, c'est lui qui proposera au chameau, ah, là, c'est une femme de bon cœur. Ce n'est pas celui qui sera maquillé, je ne sais pas comment, mais c'est celui qui proposera de l'eau au chameau. Voilà. Voilà les critères qui nous sont donnés. On avait dit qu'on va explorer la Bible pour dégager les choses, les trésors que Dieu a placés dans sa parole. Celle qui donnera l'eau, qui proposera, parce qu'on ne lui demande même pas, celle qui proposera, forcément, c'est Dieu qui l'habite. Pour faire une telle proposition, faire boire 135 litres d'eau, et là, il y avait plusieurs chameaux pour les faire boire. Donc, il fallait vraiment être une fille gentille, une fille remplie de force, de courage pour faire une telle proposition. Et c'est ce que ses serviteurs la donnent comme condition. C'est comme ça que je reconnaîtrai la femme d'Isaac. Et nous allons voir la fois prochaine, à la séance prochaine, que Dieu va l'exaucer. Il y a une fille qui va faire ça, et c'est celle qui va être Rebecca, la future femme d'Isaac. Donc, bien-aimés, sachons donner des conseils aux gens. Sachons donner des conseils aux gens. Il faut choisir des gens spirituels. Il ne faut pas que le critère physique se mêle à nos choix. C'est la spiritualité qui compte. Parce que, bien-aimé, dans ta maison, les humains, ça ne se mange pas. Toi, tu vas choisir le monsieur ou la dame en fonction des critères physiques. Est-ce que tu vas manger ça? Dans la maison, il faut discuter. Hein? Il faut parler. Il y a des réactions. Là, ton frère va appeler, j'ai besoin de toi à tel endroit. Donc déjà, on te fixe le regard pendant que tu es au téléphone pour voir comment tu vas répondre. Est-ce que tu vas dire oui? Donc rien que le regard là, tu prends une minute pour répondre à ton frère. Vous croyez que ça, c'est une vie? Donc rien que le regard de quelqu'un. Il y en a avant de revenir à la maison, il écoute les infos dans la voiture pendant longtemps parce que, pour passer du temps. Parce qu'il sait que dès qu'il met pied là-bas, aïe! Donc c'est pourquoi les critères, ça doit être des critères spirituels. C'est important, bien-aimé, des critères spirituels. C'est ce qu'on doit dire à Dieu. Dieu, je veux que ça soit une femme qui t'aime plus que tout. Voilà. Que ce soit un homme qui t'aime plus que tout. Au moins, je sais que le jour où je cite ton nom, il se plie. Le jour où je cite ta parole, il se plie. Et il y en a qui vont s'en aller avec des critères de temps. Ah, mais le temps presse, il me faut. Ah ben, après, c'est nous qui, les pasteurs, qui allons recevoir des coups de fil. J'en ai marre. Mais même nous, on va aussi dire le divorce est interdit. Donc, on va se donner toujours les mêmes phrases. Toi, tu dis, j'en ai marre. Moi, je te dis, on ne divorce pas, on prie. Toi, tu vas rappeler encore 2 semaines. Mais non, j'en ai marre plus qu'avant. Moi, je te dis, mais plus qu'avant, je crois qu'on doit prier. Donc, nous aussi, on va te donner toujours les mêmes réponses. Et il ne faut pas s'attendre à dire, ah ouais, tu as réussi à m'avoir que je te dise, ah, mais non, on divorce. Mais c'est pas la peine. C'est avant. Moi, je dis aux bien-aimés à qui je donne les enseignements, il faut poser des questions. Quand on donne les enseignements sur le mariage, il y en a qui ne posent pas les questions. Ils sont pressés d'acheter la robe ou bien d'acheter, je ne sais pas quoi, de faire le cas de... Moi, je dis, mais il faut poser des questions maintenant, parce que si vous posez des questions maintenant, vous entrez en connaissance de cause. Il y en a qui ne posent pas de questions. On lit le verset. D'accord. Oh, mais vous êtes d'accord. On dit, femme, soyez soumise. D'accord. L'homme, tu devrais... D'accord. Mais parce qu'ils sont pressés d'arriver à ce jour-là. Moi, je leur dis, mais vous devez poser des questions. Oh, mais attends, lui, qu'est-ce qu'il veut nous perdre du temps, là? Mais après, dès qu'il se marie, oh, mais je ne savais pas, mais tu ne savais... Nous, on te disait de poser des questions. Pose des questions. Non, mais c'est important. Le monsieur arrive avec une stratégie de faire. La dame qui va demander, la fille qui va demander à donner de l'eau au chameau, c'est que c'est une courageuse et c'est une bonne femme. Parce que c'est un vrai sacrifice. Et c'est comme ça que nous devons mettre Dieu à l'épreuve, dire Seigneur, si c'est la personne, ben on doit voir telle chose qui correspond vraiment à un caractère spirituel. Parce que c'est l'avenir qui compte. C'est très important, bien-aimé, et que le Seigneur nous aide à imiter ce genre de personnes. C'est pourquoi nous sommes en train de lire et explorer la Bible. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous permet de grandir dans la sagesse, qui nous permet de grandir dans la foi, qui nous permet de grandir dans nos choix, qui nous permet surtout, Seigneur, de te connaître davantage afin que notre intelligence soit renouvelée et que nous ne fonctionnons pas selon la logique des hommes, mais selon ta logique, Seigneur, car c'est ainsi que nous respirerons un bon air toute notre vie, Seigneur. Aide-nous, ô Éternel, au nom de Jésus, à aimer ta parole, à nous, à l'accepter dans sa totalité, même dans les parties qui nous semblent difficiles, Seigneur, et à nous attendre à toi pour nous aider à l'accomplir totalement. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.